para el exterior.
Radio Prague, les informations. Bonjour, une manifestation se tiendra devant la mairie de Prague mardi pour protester contre la formation de la nouvelle coalition. La Moravie du Nord étouffe de nouveau sous le smog en raison du froid. Et puis enfin, le traditionnel marché de Noël a été ouvert sur la place de la Véville à Prague. Au moins 3000 personnes participeront à une manifestation devant le siège de la mairie de Prague mardi, jour prévu de l'élection du nouveau maire. Les manifestants protesteront contre l'accord de coalition qui a été récemment conclu entre le Parti civique démocrate, principale formation de droite du pays, et le Parti social-démocrate, principale formation de gauche. Les organisateurs entendent également remettre une pétition aux conseillers municipaux dans laquelle ils leur demandent de ne pas voter en faveur de la coalition. Pour l'heure, environ 15 000 personnes, parmi lesquelles de nombreuses personnalités, ont signé cette pétition sur Internet. Une démonstration s'était déjà tenue sur la place Venceslas la semaine dernière. Le froid qui règne ces derniers jours en République tchèque, avec des températures voisines de 0 degré, a entraîné une nouvelle importante dégradation de la qualité de l'air dans la région de Moravie-Silésie, dans les environs d'Ostrava, dans l'est du pays. La concentration de smog dépasse la limite autorisée dans les 14 stations de mesure. La quantité de polluants atmosphériques étant supérieure à 50 microgrammes par mètre cube. L'information a été communiquée samedi par l'Institut hydrométéorologique tchèque. La qualité de l'air en Moravie du Nord, région industrielle traditionnelle, fait partie des plus mauvaises en République tchèque depuis de nombreuses années. Pour la première fois en cette nouvelle saison de sport d'hiver, des pistes de ski ont été ouvertes au public samedi dans le massif des Krkonoše, Mont des Géants, en Bohême de l'Est. Les 5 cm de neige fraîche tombées dans la nuit de vendredi à samedi sont venues s'ajouter à la couche de 30 cm de neige artificielle qui se trouvait déjà sur les pistes. D'autres pistes devraient être mises en service dans les prochains jours, de nouvelles chutes de neige étant attendues. Le désormais traditionnel marché de Noël sur la place de la Véville à Prague a ouvert ses portes au public ce samedi. À cette occasion, un sapin de 20 mètres de haut, décoré cette année dans le style Art Nouveau, a été illuminé en fin d'après-midi. Les tableaux du peintre Alphonse Moucha ont constitué le sujet pour les décorations du sapin. Une centaine de baraques en bois ont été installées sur la place. Elles sont occupées par des producteurs et vendeurs tchèques, mais aussi allemands et hongrois, qui proposent des produits traditionnels de la période de l'Avent dans leur pays. D'autres marchés de Noël plus modestes ont également été ouverts à d'autres endroits de Prague, notamment sur la place Venceslas. Ils resteront ouverts jusqu'au début de l'année prochaine. Plus de 130 bibliothèques en République tchèque ont participé ce samedi à la journée du livre pour les enfants. Le but de la manifestation organisée par l'association des bibliothécaires est d'encourager les enfants à lire et d'aider les parents dans le choix des livres destinés aux enfants. À cette fin, de multiples jeux, concours, séances de dédicaces et ventes de livres ont été organisées. On termine avec un mot de météo après une matinée plutôt ensoleillée, notamment dans la moitié nord du pays. Le ciel se couvrira dans le courant de l'après-midi, dimanche. Les nuages en provenance du sud-est entraîneront des chutes de neige dans la soirée. 5 à 20 cm sont attendus. Les températures sont stables et varient entre moins 2 et 2 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information qu'a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention.
Culture sans frontières. Anna Kubishta.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Culture sans frontières. Dans le cadre du 13e festival du film français qui se déroule à Prague et dans sept autres villes de République tchèque, le film Potiche de François Ozon a été présenté en avant-première tchèque lors de la soirée d'inauguration de jeudi. Dans les rôles titres, Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Fabrice Lucchini, Judith Godrèche, Karine Viard et Jérémy Régnier. Potiche, ou l'histoire de l'émancipation d'une femme rangée en une femme d'affaires qui finira en politique, Potiche est résolument un manifeste féministe. Tiré à l'origine d'une pièce de théâtre, j'ai commencé par demander à François Ozon comment s'était passée l'adaptation au cinéma.
Quand j'ai découvert la pièce, j'ai trouvé que c'était un rôle de femme absolument incroyable, qui était très, très fort, amusant, émouvant aussi, et j'ai eu tout de suite envie de le faire en film, et j'ai mis beaucoup de temps à savoir comment j'allais l'adapter. Est-ce que je le mettais de nos jours? Est-ce que je le laissais dans les années 80? Voilà, je me suis posé toutes ces questions. Et le déclic pour l'adaptation, c'était la dernière campagne présidentielle en France qui a opposé Sarkozy et Ségolène Royal, et où j'ai trouvé qu'il y a eu un vent de misogynie et de machisme incroyable. Donc j'ai relu un peu la pièce à l'aune de ça, et donc je l'ai adapté en ayant un peu cette dernière campagne en tête. Et plutôt que de le mettre aujourd'hui pour que ce soit trop, j'allais dire presque trop réaliste et presque ça corresponde trop à la réalité, j'ai décidé de le mettre dans les années 70 parce que les années 70 c'est une période qui ressemble à aujourd'hui. C'est aussi une période de crise. C'est Giscard, c'est un président de droite. Il y a beaucoup de chômage, il y a des séquestrations de patrons, il y a une période de vraiment de crise. Et donc je me suis dit peut-être ça va être un moyen pour moi de parler d'aujourd'hui de manière indirecte. Et donc j'ai adapté la pièce à cette époque, et le gros travail que j'ai fait en fait dans la pièce, bon, j'ai beaucoup aéré, coupé, et surtout c'est la dernière partie du film qui n'existait pas dans la pièce, puisque la pièce se terminait, Robert Pujol revenait dans l'usine et constatait que sa femme avait pris le pouvoir, et moi j'ai eu l'idée qu'il y ait plus ou moins un troisième acte avec Suzanne Pujol qui se lance dans la politique. Voilà, qui était une manière de rendre ça plus contemporain d'une certaine manière, et parler encore plus de la condition de la femme, et presque de faire un film féministe du coup.
C'est un manifeste féministe, hein. Enfin, ça c'est clair, je pense. Sur les années 70, justement, alors évidemment, le fait d'avoir choisi de l'adapter dans les années 70 vous a permis visiblement d'avoir une stylisation géniale. On a l'impression que vous êtes vraiment amusé à refaire ces années 70 et 70s. Moi, j'avais l'impression par moment, en regardant ce film, de me retrouver dans un film américain, mais les films américains avec ces grosses voitures.
Oui. C'est-à-dire que j'ai vraiment voulu retrouver les années 70 de mon enfance, celles que je les ai vécues, donc avec des yeux d'enfant. Avec des coiffures trop grosses, avec trop de cheveux, avec aussi toutes les influences, oui, avec toutes les influences de l'époque. Donc c'est vrai que des séries télé, j'ai pensé au personnage de Farrah Fawcett dans Drôle de Dame pour la coiffure de Judith Godrèche. J'ai pensé à Jacques Demy, bon ça c'est plus les années 60 par rapport à l'usine de parapluie. Enfin bon, il y avait plein de références comme ça que j'ai eu envie de... J'ai pas essayé de faire un film réaliste, je trouve ce qui est intéressant quand on fait un film historique, c'est de partir de la réalité, voir quels sont les documents et après choisir ce qui nous intéresse et styliser au maximum pour que ça soit vraiment dans le ton de la comédie et qu'effectivement qu'il y ait un côté ludique par rapport à la reconstitution.
Finalement, c'était une manière un petit peu aussi de garder le respect théâtral.
Oui, peut-être aussi, parce que moi j'aime beaucoup la théâtralité au cinéma. Je sais qu'il y a des cinéastes qui recherchent tout le temps le réalisme. Pour moi, c'est important d'assumer que c'est un spectacle, que ce n'est pas la réalité, que c'est une recréation. Et je pense que le plaisir du spectateur vient aussi de ça, de se dire que c'est une recréation des choses et qu'il y a, quelque chose de fabriqué.
C'est l'élection présidentielle de Nicolas Sarkozy, en tout cas la campagne qu'il a opposée à Ségolène Royal aussi, qui vous a inspiré. C'est évident dans le film. Alors, il y a plein de références. Évidemment, le fameux « Casse-toi, pauvre con ». Il y a aussi, j'avais aussi vu « Travailler plus pour gagner plus ». Finalement, vous jonglez à chaque fois, vous faites des allers-retours constants entre aujourd'hui et...
Oui, ce qui est intéressant, c'est que ces anachronismes de dialogue, en fait, rentrent complètement... dans les dialogues de l'époque. C'est-à-dire que pour des étrangers, par exemple, quand ils vont entendre Sarkozy, Luchini dire « travailler plus pour gagner plus », ils vont pas se poser la question parce qu'ils connaissent pas. Donc en fait, je pense que dans 10 ans en France aussi, il y aura pas ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'attendais pas en France que ça fasse autant de bruit, ces deux petites phrases que j'ai récupérées, qui sont un espèce de clin d'œil. Mais je pensais pas que les gens allaient autant l'interpréter et donner du sens à ça. Pour moi, c'était juste un jeu, parce que ce sont des phrases qui sont rentrées dans le langage courant. Les gamins à l'école, quand ils se tapent dessus à la récréation, ils disent « casse-toi, pauvre con ». Voilà, parce que l'exemple vient du plus haut du président de la République. Mais je pensais pas, en fait, qu'on en parlerait autant.
Mais il y a aussi finalement même la référence, alors puisque c'est un manifeste féministe, aussi même à Ségolène Royal à la fin, elle porte une veste blanche finalement, Catherine Deneuve.
Alors ça, on n'y a pas du tout pensé. Quand elle dit aussi « je veux être votre maman », on n'y a pas du tout pensé, c'était dans la pièce. Alors elle ne le disait pas aux électeurs, elle le disait aux ouvriers. C'est juste un dialogue que j'ai déplacé, mais c'est quelque chose aussi qui existait.
C'est intéressant finalement que ça ressorte.
Mais c'est ça qui est intéressant aussi au cinéma, c'est qu'à un moment le film vous échappe, les gens l'interprètent et à des moments c'est un peu effrayant parce qu'on se dit mais dis donc ils ont vu des choses que j'ai jamais vues moi dans le film. Mais c'est ça en même temps qui est amusant quand on rencontre les spectateurs, de voir leur interprétation et comment ils se sont projetés dans le film.
Alors justement, les derniers chiffres, c'est 1 million déjà d'entrées.
1 500 000.
1 500 000 même déjà en deux semaines. Vous pensez justement que le film tombe à une période
propice, parce que finalement, c'est comédie. Il y a eu beaucoup de grèves dernièrement avec les retraites en France. Donc le film est tombé juste après que les grèves soient finies. Donc les gens ont pu aller au cinéma. Et je pense qu'effectivement, le succès du film est en partie, vient en partie de la grisaille et la morose sociale qu'il y a en ce moment en France. Et que les gens ont envie de rire, de s'amuser, d'être détendus, tout en riant de sujets qui les concernent directement. Parce que la place de la femme aujourd'hui dans la société française, il y a toujours beaucoup de luttes à faire, que ce soit sur les salaires, sur les retraites, même quand on voit certaines personnes qui veulent remettre en cause des choses comme l'IVG ou des choses comme ça. Et puis il y a la France et puis il y a le monde entier. Quand on voit la position de la femme au Moyen-Orient ou dans certains pays d'Europe.
Hein.
Voilà, dans certains pays d'Europe. Donc en fait, ça a été ça la grande surprise par rapport au film quand on a commencé à le présenter à l'étranger, notamment au Festival de Venise, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était pas une histoire franco-française, c'est qu'il y avait un thème universel qui était l'humiliation de la femme et la position de la femme, et que l'émancipation de la femme, ça pouvait parler à tout le monde, même si c'est dans un contexte typiquement français.
Bon, vous avez un casting incroyable. Catherine Deneuve et Gérard Depardieu ensemble au cinéma, c'est quand même un sacré morceau. Puis après, Fabrice Lucchini, évidemment, Judith Godrèche, Jérémy Régnier. Sur finalement ces deux monstres sacrés du cinéma, les avoir les réunir ensemble, c'était un peu un rêve
pour
aussi.
Pour moi, c'était un rêve, oui, en tant que réalisateur, de réunir Catherine et Gérard, qui sont deux acteurs français que j'adore et qui représentent vraiment le cinéma français depuis 30 ans. Quoi. Ils ont déjà fait 6 films ensemble, là c'est le 7e. Il y avait un plaisir énorme de les voir ensemble, parce qu'il y a une espèce de chimie qui fonctionne vraiment très bien. Et puis je me suis rendu compte, en fait, en tournant la scène du Badaboum où ils dansent tous les deux dans la boîte de nuit, c'est qu'il y avait quelque chose de l'ordre presque, quelque chose d'intime avec nous français, spectateurs français. C'est-à-dire, comme on les a vus vieillir pendant 30 ans, c'est comme si on voyait des gens de la famille. Et il y a quelque chose, oui, de... Voilà, de touchant et d'émouvant de les voir vieillir devant nous et faire comme s'ils avaient toujours 20 ans et ils dansent en boîte de nuit.
Et puis ils s'embrassent aussi finalement.
Ah oui, il y a un baiser évidemment, il faut toujours un baiser dans ces cas-là.
Voilà, et après François Ozon, on passe à l'actrice Judith Godrèche, également présente à Prague. En seulement 2 semaines d'exploitation en France, le film remporte déjà un succès assez inattendu. On l'écoute.
Ah bah à Paris, on m'en parle beaucoup beaucoup en fait, parce qu'il y a déjà plus d'un million de gens qui ont été voir le film, 1,5 million, et donc... Du coup, les gens m'en parlent beaucoup dans la rue et les gens sont super contents, quoi. Mais c'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est un film qui rend vraiment les gens enthousiastes, enfin, et qui les met de bonne humeur, voilà. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de mélange de réjouissance, ils se sentent concernés, ils ont le sentiment parfois que ça leur rappelle des souvenirs, enfin. Mais voilà, puis alors ce qui est très drôle, c'est que c'est un film qui plaît aussi aux enfants ou en tout cas aux jeunes adolescents. Parce que j'ai des amis de mon fils qui a 11 ans qui ont été voir le film, enfin voilà. Donc c'est très mais c'est rare qu'un film plaise à la fois autant au public et aux critiques en fait, et c'est vrai que c'est assez phénoménal quoi, le succès à la fois critique et public.
Vous pensez puisque vous dites que c'est un film qui me met de bonne humeur, vous pensez que d'une certaine façon ça tombe à un moment où finalement la France ou les Français ou le public français en a besoin un petit peu?
Je pense qu'on en a toujours besoin, de toute façon, des films qui mettent de bonne humeur. Mais oui, de toute façon, il se trouve qu'en France, les comédies sont les films aujourd'hui les plus faciles à monter, qui se montent le plus facilement financièrement, quoi. Et c'est vrai que les comédies marchent mieux en règle générale que les films. Enfin, d'ailleurs, non, je dis des bêtises parce que Des Hommes et des Dieux, le film de Xavier Beauvois, c'est un énorme succès. Voilà, non, je pense que. Je trouve que c'est un film qui met de bonne humeur parce qu'il y a une espèce de quand voilà, il y a des films dont on sort ému, nostalgique, etc. Et ce film-là, on en sort avec une envie de vivre. Je trouve que c'est un film qui donne envie de vivre sa vie, en tout cas, et de trouver d'ailleurs sa voie. Il y a quelque chose de très
proactif.
Oui, puis sur la liberté féminine, sur l'émancipation.
Est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu, juste de manière succincte, quel est votre rôle dans le film?
Moi, je joue le rôle de la fille donc de Catherine Deneuve, Suzanne Pujol, qui est jouée par Catherine Deneuve. Et en fait, mon personnage au début du film se veut un peu donneuse de leçons. Voilà, elle se pense très libre, elle croit qu'elle est en avance sur son époque. Enfin, voilà, elle donne un peu des leçons à sa mère en la traitant de potiche. C'est moi, voilà, qui lui dit au début du film, mais moi, j'aimerais pas devenir comme toi, une potiche. Et en fait, on se rend compte que mon personnage est beaucoup plus coincé et enfermé, justement, dans sa vie de couple, alors qu'elle est insatisfaite, malheureuse, etc., et qu'elle est pas du tout ni dans une émancipation, ni dans une démarche. On a le sentiment qu'elle va jamais s'en sortir, quoi. Donc voilà, c'est assez drôle. En fait, c'est un peu, les rôles sont inversés. C'est-à-dire que c'est moi qui donne des leçons au départ et qui me croit très avant-gardiste. Et en fait, je suis extrêmement
potiche,
vieux jeu, potiche, ouais.
Finalement, c'est peut-être le rôle que vous jouez qui est la vraie potiche du film, finalement.
En tout cas, à la fin du film, ouais, je trouve que vraiment, en effet, c'est on peut se dire ça, ouais.
C'est un film donc sur l'émancipation aussi. C'est très féministe. En tout cas, moi, j'ai senti ça un peu comme une sorte de manifeste pro-féministe. C'est ça qui vous a séduit, par exemple, dans le film, la raison pour laquelle vous êtes allée dans ce projet?
Non, mais moi, je trouve d'ailleurs que ça se sent encore plus, évidemment, une fois que ce film est incarné, je m'en suis encore plus rendu compte en voyant le film qu'avant de l'avoir tourné, je l'avais lu, mais je m'en suis vraiment rendu compte en voyant le film à quel point c'était un manifeste féministe d'une certaine façon. Non, c'est pas pour ça que j'ai accepté le film du tout. Hein. Je pense qu'on refuse pas de bosser avec Ozon. C'est un réalisateur avec qui tout le monde aura envie de tourner, je pense. Enfin, donc voilà, moi, c'est plus pour les metteurs en scène que je fais les films que pour les scénarios, même si. Enfin, c'est-à-dire que je pourrais suivre un metteur en scène que j'aime sans scénario et je pourrais pas aller sur un scénario d'un metteur en scène que j'aime pas, alors que j'aime le scénario, voilà. Donc c'est vraiment pour les metteurs en scène que je fais les films.
Alors, qu'est-ce qui vous plaît, justement, dans la façon de diriger de François Ozon?
Ben, c'est surtout dans son cinéma et dans ses choix. Et voilà, c'est quelqu'un qui a une très grande liberté. D'ailleurs, c'est aussi, je pense, pour ça qu'il aime raconter et parler de femmes qui s'émancipent. Hein, parce qu'il est lui-même. Il a une façon d'aborder son cinéma et le cinéma avec beaucoup de liberté et d'insolence. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui passe d'univers complètement extrêmement différent, qui a pas un style attitré, vous voyez, enfin qui n'est pas dans une espèce de ligne éditoriale avec des films qui se suivent et
se ressemblent.
Voilà. Hein. Alors même si il a évidemment une marque de fabrique et qu'il a voilà, je trouve que de passer de Sous le sable à Potiche,
en passant par Le Refuge,
voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a un univers très voilà.
C'était l'actrice française Judith Godrèche ainsi que le réalisateur François Ozon. Tous deux étaient présents à la 13e édition du Festival du film français qui s'achèvera mercredi 1er décembre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Évidemment, vous pouvez retrouver ces deux interviews sur le web au www.radio.cz. À bientôt. Bon vent. Ahoy.
Miroir de la société.
Plusieurs agences ont fait récemment des enquêtes et des sondages pour savoir quelle est la ville tchèque qui paraît à ses habitants la plus plaisante, la plus agréable, voire idéale, ou bien dans quelle ville les Tchèques aimeraient vivre. À chacun son goût, à chacun enquête, ses résultats, qui se révèlent finalement assez contradictoires. Alena Gebertova vous souhaite une bonne écoute. Prague est une ville difficile à vivre. Un tiers de ses habitants voudrait la quitter. C'est ce que titraient récemment les journaux tchèques, se référant aux résultats d'un sondage qui a été effectué par l'agence DEMA et qui s'est interrogé aussi sur les raisons principales qui poussent les Pragois à vouloir quitter leur ville. Être plus près de la nature, mener une vie plus saine, pouvoir mieux respirer et pratiquer du sport, surtout du vélo. Posséder sa propre maison à la campagne pour ne pas payer de loyer élevé. Tels seraient, selon l'agence citée, les principaux arguments de ceux qui veulent changer tôt ou tard de domicile et quitter Prague. Les chiffres que le sondage révèle dénoncent l'idée stéréotypée, selon laquelle ce sont surtout les personnes âgées qui veulent quitter Prague pour aller vivre à la campagne et pour y passer leur retraite. Peut-on lire dans le quotidien gratuit Metro qui a retenu cette information? Effectivement, parmi ces gens, les jeunes ou les catégories d'âge moyen prédominent. La plupart d'entre eux veulent réaliser leur intention dans 2 ou 5 ans au plus tard. Une question de mode ou bien une envie réelle? Dana Vanikova est aujourd'hui sexagénaire. Elle fait partie des personnes qui ont décidé de changer complètement leur vie et de quitter Prague, ville où elle est née et où elle a passé toute sa vie. Cette expérience à la campagne vécue à la fin des années 90, une fois terminée, elle se voit maintenant de nouveau établie à Prague, pour de bon. Elle admet:
Zkusila jsem žít asi rok a půl na venkově, v jižních Čechách, ale Praha je Praha.
J'ai essayé de vivre à la campagne en Bohême du Sud pendant 1 an et demi environ. J'ai voulu tout rompre et recommencer ma vie ailleurs. C'est très beau là-bas, j'ai même pu travailler comme institutrice dans une école dans une petite ville proche, mais j'ai assez vite compris que je n'arriverais pas à m'habituer au rythme de la vie qui était complètement différent de ce que j'avais connu auparavant. Non, pour une Pragoise que je suis, ce serait vraiment difficile de rester pour toujours à la campagne.
Le serveur Actuagne.cz a publié dans le même temps les résultats de sa propre enquête auprès de ses électeurs pour savoir quelles sont à leurs yeux les villes idéales dans lesquelles ils préféreraient vivre. 300 villes et communes ont été sélectionnées. Les résultats ont surpris, car ce sont les villes situées dans les régions limitrophes de Bohême occidentale, considérées jadis comme ne possédant aucun intérêt, et les villes de Bohême de l'Est qui ont été plébiscitées. La ville de Domažlice en Bohême occidentale est sortie vainqueur absolu de l'enquête. Selon les résultats d'une autre enquête réalisée presque simultanément par la société Mastercard, qui a examiné les conditions de vie dans une cinquantaine de villes tchèques, c'est la ville de Hradec Králové, située en Bohême de l'Est, dans laquelle la vie serait la plus facile et la plus agréable. Prague, elle aussi, a remporté un assez beau succès dans cette enquête, en se situant en 2e position. Une petite consolation donc pour cette ville historique, au centre d'un Pragois sur 3 prétend vouloir quitter. Un regard maintenant sur la capitale tchèque et sur certains de ses aspects par le botaniste et chercheur français Patrick Blanc, qui a à son actif presque 300 murs végétaux réalisés dans le monde entier. Magdalena Hrozinková a retenu ses propos lors de son récent séjour à Prague.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'un mur végétal soit installé en République tchèque ?
Il faut trouver le lieu. Quand je vois à Prague, par exemple, bon, il y a évidemment des murs qui sont libres. Ça, c'est qui gagnerait à être couvert. Et puis il y a aussi des zones. Je me suis baladé première fois de ma vie quand même que je viens à Prague. Hein, je dois le préciser. Et hier, j'ai eu la chance d'avoir le temps avant la conférence de me promener. Quand je vois tous les passages extraordinaires que vous avez dans cette ville de Prague, où on peut circuler dans toute la ville quasiment en espace semi, pas souterrain, puisqu'on est au niveau de la rue, mais entièrement protégé. Dans ces espaces-là, je pense qu'il peut y avoir des structures très intéressantes, végétales à faire, justement, pas forcément que des murs, mais ça peut être des plafonds végétaux, ça peut être des espèces de spirales qui descendent quand il y a un puits de lumière. Vous voyez, donc ces espaces-là aussi pourraient être des espaces très intéressants pour moi, pour travailler sur un concept de mur végétal dans ces espaces-là. Et puis bien sûr, dehors, alors comme il fait froid à Prague, vous savez, j'ai fait des murs à Berlin, hein, quand même, donc il fait au moins aussi froid à Berlin. J'en ai fait à Séoul, en Corée. Je peux vous dire que l'hiver est très froid aussi à Séoul, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Là, j'ai un projet à Kiev. Donc, quand il fait froid, le choix des plantes est plus limité, puisqu'évidemment, il faut des plantes qui résistent très bien au froid. Et évidemment, quand il fait froid, il y a plutôt intérêt à avoir un mur qui soit exposé sud, sud-est ou sud-ouest qu'un mur exposé au nord. Hein, ça tombe relativement sous le sens, quoi. Donc, une fois qu'on sait, puis on les endroits protégés, vous voyez, une cour comme ici, c'est sûr que c'est plus simple qu'en plein vent, voilà. Mais à partir de là, il y a beaucoup d'espaces qui peuvent être évidemment couverts de plantes à Prague, et puis pas seulement à Prague, mais je connais que Prague de la République tchèque, hein, mais donc je suis sûr qu'il y a un grand potentiel.
Est-ce que Prague est une ville suffisamment verte, d'après ce que vous avez vu?
Prague me semble très peu verte de ce que j'ai vu. Je peux pas vous dire, je suis loin d'avoir vu tout Prague, mais en me promenant, je n'ai pas vu beaucoup de vert. J'ai vu de superbes maisons, superbes immeubles des années 1910, 1920, même 1890, des choses vraiment et vraiment étonnantes. On parlait des choses même plus anciennes. Le vert est sur vos collines, puisque vous avez des collines. Donc en fait, moi je crois que quelque part c'est bien. Vous avez le paysage autour avec vos collines qui sont vertes et le centre de la ville qui est donc un peu entre ces collines est moins vert, mais c'est pas très gênant puisque le vert se voit au loin. Vous avez cette chance d'avoir un paysage très beau. Je trouve que ça se marie très bien, votre ville, avec la rivière, hein, la Moldau, et puis les collines. Je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne bien comme ça, ce qui n'empêche pas bien sûr de mettre des murs végétaux dans la ville, mais besoin de parcs, je pense pas. Vous les voyez tellement, les parcs, si près sur les collines. L'Europe centrale et même un peu plus loin, est, commence à s'intéresser à mon travail. C'est rigolo. Il y a des faces comme ça et ça me fait plaisir. Surtout que moi, je connaissais pas du tout cette région du monde. Autant je connais bien l'Amérique tropicale, Afrique, Asie, vous voyez. Autant notre continent, je le connaissais très très mal. Et là, j'étais la semaine dernière à Katowice. Je sais pas si vous voyez, c'est en Silésie, en Pologne. Pareil pour un projet, parce que Katowice veut se présenter comme capitale de la culture en 2016 pour l'Europe. Donc voilà, je suis allé pour identifier des lieux. J'avais déjà fait un projet à Gdansk en Pologne. Vous voyez, je trouve des choses, mais tout ça, c'est des choses récentes. C'est depuis, je vous dis, 2-3 ans qu'on s'intéresse à mon travail dans cette région du monde qui m'était inconnue, bien que très proche, et que je découvre.
C'était donc le botaniste français Patrick Blanc au micro de Magdalena Hrozinkova. C'est la fin du miroir de la société et c'est ainsi que se termine tout le programme en français de Radio Prague. D'aujourd'hui, je vous dis au revoir. Nasledanou.
En su receptor, Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone en antena su primera emisión para España a las 9 horas UTC, tiempo universal coordinado, por la frecuencia de 11.600 kHz. A las 15 horas UTC, los oyentes españoles nos pueden sintonizar por los 11.600 kHz. A las 19 y 20 horas UTC, transmitimos para España por los 5.930 kHz. A las 21.30 horas UTC nos pueden sintonizar en España y en América Latina por los 5.930 kHz. A las 0 horas UTC, Radio Praga transmite por los 9.790 kHz. A la 1:30 de la madrugada UTC nos pueden sintonizar en Centroamérica por los 7.410 kHz.